RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, les amis, les GG sont au Salon de l'Agriculture en direct de la région des Hauts-de-France, du stand des Hauts-de-France, c'est de Hall 7, les copains, et vous pouvez venir nous voir en direct jusqu'à midi. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour le Salon de l'Agriculture.
Nous avons emmené ici au Salon de l'Agriculture, le régional de l'étape, l'homme des Hauts-de-France aussi, Antoine Dierce.
Salut Alain, bonjour à tous, quel plaisir d'être sur le stand des Hauts-de-France, magnifique, un peu à la maison à Paris, voilà, reçu comme il se doit, formidable.
On a l'homme de l'Occitanie qui est venu jusqu'aux Hauts-de-France, c'est le docteur Jérôme Marty, le médecin de Fronton, bonjour.
Il faut bien amener un peu de soleil quand même ici, non?
Voilà.
Un peu d'accent, un peu de soleil.
Il est partout en France aujourd'hui, le soleil. Et puis Laura Barton-Martinez, la sophrologue à la Corse au cœur, et des nôtres aussi aujourd'hui. Bonjour Laura.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors avant que tu donnes le menu, Alain, il y a le petit déjeuner. Ça c'est une tradition ici, on commence avec Caroline. Le petit déjeuner des Hauts-de-France.
Ah bah oui, c'est Caroline qui est avec nous. Bonjour ma chère Caroline, bonjour et bienvenue.
Oh là là, il y a des gaufres.
On commence le petit déj, on a salé sucré.
Oui, ouais. C'est ça.
Alors, le salé.
Le salé, vous avez un fromage de Schnorr qui est fait à Sainte-Gaudelaine dans 62, à Vire-et-Froid, pardon, près de Boulogne.
C'est quoi comme fromage?
C'est un fromage au lait de vache pasteurisé avec une croûte lavée, donc c'est très doux, mais ça a un peu de caractère quand même. Hein,
mais ça ressemble au maroilles?
C'est un petit cousin.
Un petit cousin, oui.
Voilà.
Et les gaufres?
Les gaufres, vous êtes sur des gaufres fourrées vergeoises. Elles sont fabriquées à Erquin-Gemlis. Ouais, donc c'est juste entre Lille et Armentières. Mmh. Voilà.
Mmh. Et moi, je suis très gaufre.
Je vous conseille de commencer par le fromage quand même, Jérôme.
Ouais, j'ai fait l'erreur.
C'est pratique de commencer avec la bouche pleine, une émission.
Comme disait ma grand-mère, tout fait ventre. Comme disait ma grand-mère, tout fait ventre.
Ouais, effectivement. Laura?
Laura, on n'entend plus. Écoute, Laura, merci d'être là.
Merci pour ce petit déj adorable qu'on a eu à chaque fois qu'on est venu ici au salon de l'agriculture. Merci beaucoup.
Bonne émission.
Et on attend la bière tout à l'heure.
Là?
La bière. C'est un peu tôt la bière quand même, 9h.
Avec modération.
Là, tu as de la chicorée pour commencer.
Oui. Et j'ai découvert. Moi, le petit gars du Nord, je n'avais jamais vu de chicorée.
Ah bon?
Et bien en fait, ça fonctionne bien.
Ouais, c'est
ça,
bien.
Ça marche très bien. Ouais.
Peut-être qu'on devrait en donner à Jean-Luc Mélenchon, ça le calmera un peu, un petit chicorée.
Camomille plutôt.
Le matin. Jean-Luc Mélenchon, encore dans l'excès. On va voir si c'est une stratégie payante ou pas. C'est à vous de venir en parler avec nous au 32-16. Dernier exemple en date, c'était lors d'un meeting à Lyon où Jean-Luc Mélenchon, après avoir tapé sur une partie de la classe politique, tapé sur les médias, à un moment a évoqué l'affaire, la grande affaire Epstein ou Epstein.
S'il s'agit de l'affaire Epstein, ah je voulais dire Epstein, pardon, ça fait plus russe Epstein, hein. Alors maintenant, vous direz Einstein au lieu d'Einstein, Frankenstein au lieu de Frankenstein. Eh bien voilà, non, tout le monde comprend comment il faut faire.
Oui, tout le monde comprend à quoi il fait référence. En gros, si on dit Epstein, ça serait pour gommer le fait que Epstein est juif. Hein. Donc il joue avec ça. C'est exactement, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, ce que dit Alain Soral et ou Dieudonné en disant, bah oui, on nous dit de dire Epstein parce que Epstein, ça fait référence à la communauté juive. On est dans ça. Hein. Il faut dire très clairement, d'ailleurs, à gauche, c'est tout de suite dénoncé. Marine Tondelier dit, c'est pas possible, ça va trop loin. Olivier Faure dit, on ne peut pas être antifasciste en utilisant finalement des propos, les propos des fascistes. Hier, moi, j'avais fait une comparaison avec Jean-Marie Le Pen. J'avais dit, finalement, Jean-Luc Mélenchon, c'est le nouveau Jean-Marie Le Pen. Alors, je sais que j'ai eu pas mal de réactions, mais Jean-Marie Le Pen faisait aussi des jeux de mots. Le dur à four crématoire. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon en est là. Alors, est-ce que là, c'est vraiment la provocation de trop?
32-16 pour le dire au GG, aux grandes gueules. Antoine?
Je pense qu'il perd les pédales, c'est-à-dire que on n'est même plus dans de la stratégie politique, c'est-à-dire que on a longtemps dit Mélenchon grand stratège politique, mais là il n'y a plus de stratégie, ou en tout cas la stratégie qu'il imagine ne peut pas être payante dans aucun cas. Je l'ai déjà dit à ce micro, on est sur une radicalisation de Jean-Luc Mélenchon au sens où il n'a plus de rationalité.
Tu dis il perd les pédales.
Acculé, il a perdu toute rationalité. Et c'est vraiment le côté où tu sais que t'es mal et tu confortes ton petit cercle. Tu vois, c'est le bunker, quoi. T'es dans le bunker et tu confortes ceux qui restent autour de toi et tu dis des dingueries.
Dans la salle, on rit à ces propos.
Mais oui, mais
on applaudit.
Mais ils sont tous perdus chez LFI. Et pardon, moi, je voudrais pas être de ceux qui, à gauche, ont pu s'associer à une époque avec LFI. Parce que, au-delà de LFI, ça rejaillit sur tous ceux qui ont pu s'associer.
Et qui vont peut-être même s'associer aux élections municipales.
Il y a une trentaine de villes où, au premier tour, il y a une union de toute la gauche, hein.
Jérôme.
Non, mais en disant il perd les pédales, tu l'excuses quelque part. Parce que quand tu perds les pédales, ça veut dire que tu n'es pas maître de tes pensées. Il est tout à fait maître de ses pensées. Il est antisémite, raciste, complotiste, extrémiste. Et il faut le pénaliser. Je rappelle qu'Alain Soral vient d'être condamné à 2 ans de prison ferme pour son comportement.
Oui, parce qu'il y a eu plusieurs condamnations.
Non, mais là, si tu veux, quand tu manies avec réflexion, parce que c'est fait avec réflexion, parce que c'est un orateur, il sait comment on manie une salle, il sait très bien que face à lui, il a des gens qui sont antisémites. Et donc, il lance à la cantonade cette différence entre Epstein et Epstein pour dire effectivement le monde juif détient le monde, ces espèces de vieilles théories, mais qui rejoignent aussi quand on nous dit l'état profond et tout ça, ça rejoint un petit peu tout ça, le grand Rissel, le Great Reset, tous ces trucs là quoi, cette espèce de vieux relent pourri d'antisémitisme bien ancré dans le territoire de France qu'il manie plutôt qu'essayer de le dénoncer. Donc je veux dire, cet homme là aujourd'hui doit être au banc de la République. Ça suffit, quoi. Moi, j'en ai assez, d'extrême droite ou d'extrême gauche, peu importe, je m'en fous. J'en ai assez qu'on mette en avant des espèces de théories extrémistes qui ne nous amèneront qu'à une chose, c'est à nous foutre sur la gueule. Ça suffit, quoi.
Mais donc, ça suffit. Dans son cas, c'est le nouvel antisémitisme. C'est pas le vieil antisémitisme de l'extrême droite,
c'est
le nouvel antisémitisme qui parle à une population.
Laura.
Oui, non. Ce que je trouve déplorable, c'est que j'ai peur que la jeunesse écoute M. Mélenchon. Et je me dis, mais dans quel monde vont arriver nos enfants? C'est-à-dire que, je sais pas, mais moi, quand j'étais lycéenne, comme tous mes camarades de lycée, eh ben, on est gauche parce qu'on est révolutionnaire, on veut changer le monde, on veut que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et là, en fait, quand tu regardes le palmarès politique de gauche, et tu n'as que des fous, ce ne sont que des fous furieux. C'est-à-dire que moi, je me souviens avoir milité avec mes copines pour pas qu'on fasse mal aux animaux. Je me souviens qu'on avait milité pour plein de sujets écologistes, humanistes. Mais là, en fait, c'est quoi? Et en plus, là où je trouve que tu as tort, Antoine, et que je rejoins Jérôme, c'est qu'il manie les mots. Il écrit ses discours et c'est quelqu'un d'une extrême intelligence et qui sait pertinemment ce qu'il fait. Et comme là,
donc il perd pas les pédales.
Ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de se rendre compte, parce que malheureusement, je pense qu'il y a énormément de personnes musulmanes françaises qui sont en France et qui se sont détournées de Jean-Luc Mélenchon parce qu'il nuisait à leur image en les faisant passer parfois pour des terroristes, vu la manière dont il parle, et c'est lui qui racise les Français. Et comme là, c'est en train de glisser, il surfe sur la vague Raphaël Arnaud. Ouais. Et donc maintenant, il alimente ce qui lui reste de team, c'est-à-dire les antifas, que je ne considère absolument pas comme antifas, ils le sont tout autant que les autres. Et donc là, maintenant, il alimente son nouveau peuple, sa nouvelle communauté. Et je trouve ça dangereux au possible. C'est-à-dire qu'il va encore y avoir des clivages et ça ne va faire que encore. Va y avoir d'autres décès.
Après, là, il y a quand même une réaction ce matin très ferme d'Olivier Faure, qu'on accusait d'être ambigu avec Jean-Luc Mélenchon, d'avoir une position un petit peu un peu compliquée. Là, très fermement, Olivier Faure dénonce ses propos. Marine Tondelier aussi, on reprochait aux écologistes aussi, parce que les écologistes, ils ont aussi besoin d'une alliance avec la France Insoumise pour avoir des élus. Bon, là, Marine Tondelier, très clairement, a dit trop, c'est trop, ça va trop loin. Donc là, peut-être qu'on est en train d'assister aussi à un tournant à gauche où LFI devient, pour la gauche, ce que le Front National a été pendant longtemps pour la droite, et le RN aussi. Quoique maintenant, à droite, le RN a pris le pouvoir, en quelque sorte, alors que LFI, c'est pas encore le cas.
Moi, je pense qu'il le cherche, Jean-Luc Mélenchon.
Oui, sans doute.
Il veut qu'il se détache de lui pour finalement montrer que les autres, tu sais, il va dénoncer l'UMPS à son tour, comme le faisait le Rassemblement National. Il va dénoncer tous ceux qui sont dans le système.
C'est ce qu'il a fait encore hier, d'ailleurs.
Voilà, je pense qu'ils veulent l'abattre. Donc, c'est vraiment une stratégie. Est-ce qu'elle est payante, cette stratégie?
Il a cramé les municipales. Il est déjà sur les présidentielles.
Les municipales, c'est pas vraiment un enjeu pour les
uns. Oui, mais c'est pas un enjeu peut-être, mais quand même, il y a des cycles. Ouais. Les politiques actuelles, la plupart, ils sont sur les municipales. Lui, il a cramé les municipales, il est sur les présidentielles. Ouais. Et effectivement, son calcul, c'est d'ostraciser tout le monde, de mettre tout le monde dans le même panier, comme le faisait le père Le Pen à l'époque, effectivement. Donc il est là-dessus aujourd'hui. Et donc il va donner des coups de plus en plus durs, de plus en plus forts. Et si les hommes politiques, dans leur ensemble, ne sont pas capables, encore une fois, de le mettre au banc de la République, on va avoir droit à quelqu'un qui fait du terrorisme intellectuel. Après, parce que c'est ça qu'il fait actuellement.
On a mis Jean-Marie Le Pen un peu au banc de la République, entre guillemets. Ça n'a pas empêché l'ascension de Jean-Marie Le Pen. Pour Jean-Marie Le Pen, ça lui a permis aussi d'arriver au deuxième tour de l'élection présidentielle.
Ce qui est assez baroque, c'est qu'hier, je vous raconte les coulisses de notre plateau sur BFM TV hier, au moment où on va parler de l'affaire Epstein. Hier, on a une discussion pendant la pub avec Thierry Arnault, justement, vous savez, qui est le spécialiste de la diplomatie internationale sur BFM TV, qui a vécu longtemps aux États-Unis. Moi, je lui dis Thierry, je lui dis Epstein. Voilà, parce que pour moi, EIN à l'européenne ou à la française, ça fait Stein. Voilà. Et il me dit comme il est américain, sur les plateaux américains, on dit Epstein. Je lui dis mais nous, quand on reçoit par exemple l'addictologue, le professeur Lovenstein, on dit le professeur Lovenstein, on dit pas le professeur Lovenstein. Donc ça, c'est Frankenstein, Albert Einstein, c'est une discussion. Sauf que la manière dont Jean-Luc Mélenchon ça n'a rien à voir avec la discussion que nous on peut avoir. Quoi. Antoine, pardon, je t'avais coupé la parole.
Non mais il n'y a pas un journaliste qui prononce de la même façon.
Oui, c'est ça. Personnellement, je dis Epstein.
La prononciation, tout dépend de l'origine de sa famille. S'il vient d'Allemagne, c'est Epstein. Ouais. S'il vient des Pays-Bas, c'est Epstein. Ouais, c'est donc en réalité, c'est ça le patronyme. Mais là où je voulais revenir, quand je dis qu'il perd les pédales, Mélenchon, j'entends, je l'excuse pas du tout. J'entends votre vision, qu'il y aurait une stratégie, mais cette stratégie, elle ne peut jamais être gagnante. Et donc,
la fureur, ça lui a permis aussi d'être à 20% deux fois de suite à la présidentielle.
Mais c'est trop.
C'est-à-dire que même en faisant un électorat, tu sais bien que tu rassembles pas 20% des gens sur une base aussi radicale.
Oui. C'est-à-dire que le vote utile à gauche ne pourra pas fonctionner pour lui.
Évidemment.
C'est ce qui avait été le cas il y a ça.
Laura, et puis on va écouter Soufiane au 32-16.
Ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand Mélenchon remuait les foules, c'était quand même de l'époque de M. Corbière et de Mme Garrido. Où là c'était.
Qui ont été purgés,
qui voulaient la 6ème République, où c'était des combats pour que les LGBT puissent être complètement admis dans la société, ils voulaient pouvoir l'inscrire à la Constitution, qu'on peut changer. Donc je veux dire qu'il y avait un réel combat que les jeunes pouvaient porter. Enfin, je veux dire, c'est ce qui a amené énormément la jeunesse auprès de Jean-Luc Mélenchon. Le seul problème maintenant, c'est que déjà ça ne fonctionnera pas, sauf que maintenant que les jeunes ont adhéré aux idées de Jean-Luc Mélenchon, lui, et c'est là toute sa dangerosité, c'est qu'il les emmène petit à petit dans une divergence d'opinion qui me terrorise. C'est-à-dire que maintenant, tu dois haïr l'autre, et en plus, tu dois le montrer du doigt, tu dois le pointer. Moi, ça me fait extrêmement peur.
Soufiane est avec nous. Bonjour, Soufiane, qui est dans le Nord. Il est éducateur. Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que vous pensez de cette polémique, alors, Soufiane?
Est-ce que
vous en voyez une, au moins?
Justement, ça va pas être un secret. J'y vois une énième polémique sur Jean-Luc Mélenchon, et jamais la façon par laquelle on aborde le fond. C'est-à-dire que je sais pas si ceux qui parlent sur le plateau ont écouté la conférence. Ça serait bien d'écouter la conférence et de voir que il y a été question de climat, il y a été question de capitalisme, il y a été question d'emploi. Et à chaque fois, la façon par laquelle on réduit la chose, c'est sur une polémique qui représente 14 secondes sur 1h30 de conférence.
C'est Jean-Luc Mélenchon qui le veut, ça.
C'est lui qui l'annonce.
C'est un homme de médias depuis 40 ans. Il sait exactement ce qu'il fait. Il sait exactement quelle phrase va être choisie. Il sait exactement quelle phrase va être mise en avant. Et il sait exactement quel usage va être fait de cette phrase. C'est pas du tout un raptus, hein.
Alors, je pense que c'est plutôt la façon dont on interprète qui veut ça. C'est-à-dire que lorsque vous avez un individu qui s'exprime et que on extrapole sur Epstein, moi je vous dis à titre personnel, je me fiche de savoir comment est-ce qu'on prononce la chose. Et puis moi, lorsque quelqu'un a eu un scandale comme Epstein, je me demande pas s'il vient d'Allemagne ou d'Hongrie, ça m'est égal en fait. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On extrapole à partir de ça pour dire que.
Et personne n'a parlé de son origine. Et personne n'a parlé de sa religion.
Soufiane, on n'extrapole pas. C'est Mélenchon qui lance qui lance cela, qui lance cette polémique en quelque sorte, et qui dit, en gros, si les gens prononcent Epstein, c'est pour gommer le fait qu'Epstein était juif. C'est ça qu'il dit. Donc, en fait, c'est une remarque antisémite. Non, mais on le comprend. Attends, écoutez, Soufiane, on n'est pas complètement débile, et tout le monde a bien compris. Je veux dire, il faut être malhonnête pour pas comprendre ce que Mélenchon a voulu dire. Dans ce cas-là, ça sert à rien qu'on discute, parce que il faut être malhonnête pour pas voir que Mélenchon, ou une mauvaise foi, pour pas voir que Mélenchon a voulu faire un gros clin d'œil aux antisémites.
Je suis pas malhonnête, je suis en train de vous répondre. Simplement que lorsqu'on a une conférence d'une heure trente et qu'on l'écoute dans son intégralité, je peux vous assurer que 10 secondes, ça n'est pas intéressant. Par contre, lorsqu'on ne s'intéresse qu'aux 10 secondes... Laissez-moi terminer. Lorsque on ne s'intéresse qu'aux 10 secondes qui nous intéressent, c'est sûr que sur chaque conférence de chaque individu, on peut tout à fait croire prendre la séquence qui nous intéresse et en faire une polémique. Et je vous donne un exemple.
Vous dites que 10 secondes d'antisémitisme, finalement, c'est pas grave. 10 secondes d'antisémitisme... Non, mais je suis désolé, monsieur. Ce que vous dites, c'est grave. 10 secondes d'antisémitisme, peu importe, c'est grave. Il y a des gens, il y a des millions de gens qui sont morts. Il y a eu 10 secondes d'antisémitisme. Maintenant, vous ne voulez pas le reconnaître, c'est votre problème. Mais si tout le monde s'insurge, c'est le cas. Et si M. Mélenchon, il veut se défendre, il n'a qu'à arrêter de refuser de vouloir revenir sur les médias mainstream, sur les médias de contradiction. Je suis désolé, ce monsieur est dangereux et ce monsieur a la haine de certaines personnes.
Lorsque vous dites, madame, 10 secondes, alors dans ce cas-là, il faudrait que l'on fasse des polémiques sur les bras qui ont été tendus lorsqu'il y a eu une manifestation la semaine dernière, plutôt que de me couper la parole toutes les deux secondes pour essayer de me faire dire ce que j'ai pas dit. L'antisémitisme, il est à condamner. Et c'est parce que j'estime que l'antisémitisme est à condamner qu'on peut se sentir insulté lorsqu'on dit que c'est pour attirer l'électorat musulman, comme si de fait on était antisémite. On est contre l'antisémitisme, mais voit bien.
J'ai dit exactement le contraire il y a cinq minutes, mais c'est pas grave.
Il y a des antisémitismes qui ne déclenchent pas de polémique.
Lesquels,
dites-moi.
Eh ben, la semaine dernière, est-ce que vous avez dit que finalement tout ce qui se passait à l'ultra-droite était de la responsabilité de Marine Le Pen et de ses acolytes? Jamais.
Oui.
Jamais. On ne sait pas. On ne prend pas des séquences pour essayer de les rendre représentatives.
Il
se trouve par exemple que le Rassemblement National a refusé de participer à l'hommage samedi de Quentin, où effectivement il y a eu des saluts nazis, mais le RN Bardella avait dit mes troupes n'ont pas à y participer. Donc on voit quand même qu'il y a d'un côté une volonté, alors peut-être factice, on peut en débattre, Soufiane, d'une volonté quand même de faire le ménage au RN, et alors que de l'autre côté Jean-Luc Mélenchon se diabolise.
Soufiane, je vous remercie d'avoir été avec nous pour cette discussion, et ça va nous emmener à l'autre discussion maintenant, c'est-à-dire qu'on se retrouve, et vous l'évoquez un peu d'ailleurs maintenant, coincé. C'est-à-dire qu'on est coincé entre deux partis qui sont aujourd'hui dans la radicalité, le Rassemblement National et la France Insoumise, et deux partis qui finalement sont en train de donner le tempo de la vie politique. Alors, est-ce qu'on doit choisir uniquement, on est coincé en choisir son camp entre le Rassemblement National et la France Insoumise? Vous venez en parler avec nous au 32-16, mais d'abord on vous a posé la question sur les réseaux sociaux, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon est-elle payante ou non? On va voir ce que vous en pensez. Elle n'est pas payante à 77%, c'est ce que maintenant on est à 78%. Après, la consultation va vivre tout au long de la journée et vous regarderez le résultat final sur les réseaux sociaux. Allez, à tout de suite pour parler de ces deux blocs maintenant qui nous coincent dans le paysage politique.
RMC,
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules en direct de la région des Hauts-de-France, du stand de la région des Hauts-de-France ici au Salon de l'Agriculture, en direct aussi sur RMC et RMC Story. Je vois Fabien qui fait la claque et on le remercie pour l'organisation ici du stand des Hauts-de-France. C'est lui qui nous a amené, bien évidemment aussi toutes les personnalités qu'on a rencontrées, les éleveurs, les producteurs. Et ce sera encore le cas aujourd'hui puisque nous serons notamment tout à l'heure avec les agriculteurs des Hauts-de-France pour parler de la gestion de l'eau, des nappes phréatiques. Là, on a les producteurs de pommes qui était là, le jus de pomme.
Le jus de pomme de Pitgame, juste à côté de Dunkerque. On est dans la campagne flamande, juste derrière Dunkerque, et il est évidemment excellent.
Avec Jérôme Marty, avec Laura Barton-Martinez et avec Antoine Dirs, qui sont notre trio de GG aujourd'hui, je vous propose qu'on continue d'évoquer la politique, et avec vous au 32-16, comme Soufiane il y a un instant, parce qu'on est maintenant, pour le paysage politique, coincé entre deux blocs de la radicalité. «
Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui d'ailleurs hier était au salon de l'agriculture. Jean-Luc Mélenchon, lui, n'y met pas les pieds au salon de l'agriculture.
Jamais.
Mais toujours est-il que ce sont ces deux blocs politiques, LFI d'un côté, Rassemblement National de l'autre, qui donnent le tempo, presque le tempo de la vie politique et des élections.
Oui, on est pris en tenaille. Il y a un face-à-face qui est en train de s'installer entre la droite radicale et la gauche radicale. Et ces deux blocs accaparent finalement le débat public. On ne parle que d'eux. Ça polarise aussi tous les débats. C'est difficile d'être nuancé dans ce cas-là. Et en fait, tout le monde est un peu obligé de choisir son camp et sommé de choisir son camp. Est-ce que c'est pas le piège de cette présidentielle qui arrive? C'est-à-dire que on va avoir ces deux blocs qui vont s'affronter, qui ont peut-être besoin l'un de l'autre. Et puis au milieu, tous ceux qu'on appelle les modérés, qu'ils soient de gauche ou de droite, vont être finalement des commentateurs, des observateurs. Ils vont compter les points, mais ils ne pourront pas faire grand-chose de plus.
Laura.
Moi, je suis effarée. Je suis effarée parce que dans les... Hormis leurs idées, des deux côtés, on a un programme, mais pauvre. Il n'y a aucune mesure qui va pouvoir être adoptée. Sur le plan fiscal pour les entreprises et la classe moyenne, il n'y a absolument rien. Et au-delà de ça, ça veut dire quoi? Qu'on va avoir une France divisée en deux. Mais en même temps, comment on peut leur en vouloir? Il y a eu un tel laxisme du bloc central et du bloc républicain. Enfin, je veux dire, dites-moi ce que le gouvernement a fait en disant quel est le bilan d'Emmanuel Macron. On peut pas dire qu'il a fait quelque chose de mal, on peut pas dire qu'il a fait quelque chose de bien, puisqu'il n'a rien fait.
Non, c'est pas vrai.
Il fait du mal.
Non, tu peux pas dire ça.
Bah, et vas-y, une mesure, une réforme qui a vraiment fait avancer le pays ou qui a vraiment.
Tu parlais de l'économie. Emmanuel Macron, il a essayé d'être pro-entreprise, de favoriser ce qu'on appelle la politique de l'offre. Le chômage a baissé. Alors maintenant, il remonte, mais il a baissé. Attends,
le chômage, il a baissé. Pourquoi? Parce qu'il n'a fait que créer des micro-entreprises.
Je vais jusqu'au bout, parce que tu me posais la question. Non, il a essayé de favoriser l'apprentissage, notamment.
Non, ça n'a été que des chimères.
Non,
c'est
trop facile de dire dans ce cas-là tu tombes dans le piège où il y a rien, soit il y a rien du tout, enfin toi on peut bah, être plus dansé.
Moi j'ai l'impression que le bateau n'a pas eu de pilote, enfin on dit pas le pilote, de capitaine pendant 10 piges.
Non, là où je rejoins un peu Laura, c'est que la nature est hors du vide, quoi, et que ça fait maintenant des années que les partis dits républicains s'effondrent. Les Républicains, ça n'existe plus. Le Parti Socialiste, ça n'existe plus. Moi, nous, on a connu une époque où il y avait un bipolarisme. Il y avait la gauche et la droite. Et puis, tu avais les extrêmes.
Mais là, tu as retrouvé la bipolarité.
Et là, maintenant, on va se retrouver effectivement avec une bipolarité parce que le centre a totalement disparu et est en train de il y a une espèce de porosité. Il rentre dans le terrain et il disparaît petit à petit, quoi. Et je suis désolé, mais on est un peu fautif par rapport à ça. Moi, quand je vois le drame qui est arrivé donc à ce jeune qui s'est fait tuer l'autre jour,
Quentin, à Lyon,
l'actualité a quand même fait 15 jours là-dessus, 15 jours, oubliant que c'est un groupuscule extra-minoritaire qui est venu faire le coup de poing contre un autre groupuscule extra-minoritaire, et on en a fait les premiers titres pendant 15 jours. Il y a eu un drame, je suis d'accord, mais de là à en faire l'alpha et l'oméga de la politique de France pendant 15 jours, ben c'est du pain béni pour les extrêmes, évidemment. Et on leur tisse tout ça, quoi. Et on ne parle que d'eux, sans même parler des vrais problèmes des Français. Parce que quand même, si on regarde, malgré le battage qui a été fait, il y avait 3500 personnes dans la rue. C'est Wallou. Il y a un drame, vous ne me ferez pas dire que ce n'est pas un drame. Il y a un drame, mais 3500 personnes, c'est là la réalité. Pourquoi? Parce que les Français, ils ont d'autres problèmes que ça. Ils ont d'autres problèmes que 20 connards qui vont se taper avec 20 connards. Parce que c'est ça qui s'est passé.
Moi, ce qui m'ennuie...
Donc il y a un moment où quand même, il faut que nous aussi, on fasse notre autocritique et qu'on regarde quelles sont les vraies problématiques des Français et qu'on arrête de monter, parce que ça fait de l'audience, on doit le reconnaître, quoi. Le fait de se braquer les uns contre les autres, ça fait de l'audience. Les réseaux sociaux, ils sont faits comme ça. L'algorithme de X, il ne fonctionne qu'avec la violence. Qu'avec le fait de se rentrer dans la gueule les uns les autres. Donc à un moment, il va falloir qu'on apaise un peu tout ça et puis qu'on revienne à la démocratie. Parce qu'on est en train de faire mal à la démocratie. Et ils font mal à la démocratie. Mélenchon fait du mal à la démocratie et l'extrême droite fait du mal à la démocratie.
Alors, avant de te donner la parole, Antoine, on a François qui vient d'arriver au 32-16. Il est étudiant en alternance et il nous appelle du département de l'Isère. Bonjour François.
Bonjour.
C'est vrai qu'on a ce sentiment d'être coincé aujourd'hui dans le paysage politique entre les deux blocs RN et LFI. Qu'est-ce que vous en dites, François?
Dans l'état actuel des choses, oui, c'est vrai qu'on est coincé, mais faut pas oublier qu'il n'y a pas que eux comme parti. Il y a plein de partis. Enfin, je veux dire, on met la focale sur eux. Moi, je vois aussi sur les réseaux, tout le monde dit oui, vivement 2027, vivement 2027. Mais en attendant, il y a rien qui se passera. Il suffit de voir Jordan Bardella qui est aussi mainstream qu'Emmanuel Emmanuel Macron maintenant. Donc au final, il fera simplement la politique de Macron avec quelques légères nuances de droite, mais il fera exactement la même chose s'il est élu, hein, parce que bon, c'est pas encore fait.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Mais qu'est-ce que ça veut dire mainstream ?
Bah, mainstream, ça veut dire.
Allez-y, François.
Bah, moi, je trouve mainstream, c'est quelqu'un qui défend pas la France, quoi, tout simplement, qui est pour, parce que moi, je suis dans le groupe EDF, enfin, je suis en alternance dans le groupe EDF, bon, pour moi, c'est quelqu'un, comme Emmanuel Macron, quoi, c'est flinguer l'énergie française, flinguer tous nos intérêts nationaux, et puis, voilà, bon,
Ils sont pas d'accord, le débat est, sur l'énergie, ils sont pas d'accord, puisque le RN a même déposé une motion de censure, comme LFI d'ailleurs, contre la politique énergétique du gouvernement. Là, il y a un vrai débat. Est-ce qu'il faut plus d'éoliennes, plus de solaire, moins ?
Mais ils ne veulent pas sortir de l'arène.
Si, le Rassemblement National, ils veulent.
Il y a un beau travail de Jean-Philippe Tanguy au Rassemblement National sur les questions d'énergie. Mais je vois ce que vous voulez dire, François. Je ne vais pas aussi loin que vous, mais moi, ce qui me gêne dans ce débat, c'est que finalement, la plupart d'entre nous autour de la table renvoyons à LFI et le RN dos à dos. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. LFI est aujourd'hui bien pire. LFI est complètement complaisant vis-à-vis de ceux qui font le coup de poing. Pardon, Jean-Luc Mélenchon, président de parti, a soutenu la jeune garde. Marine Le Pen et Jordan Bardella sont très très loin de soutenir des extrémistes. Ils s'en détachent même. Donc.
Ça, c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est vrai que, mais après, faut voir aussi, il y a chaque personne, pour moi, ils ont une horloge dans eux, et Jean-Luc Mélenchon, lui, il a le tic-tac, tic-tac, si c'est pas 2027, c'est fini. Donc, il est obligé de s'extrémiser pour dire de percer dans le débat, mais après, c'est à vous aussi, journalistes, d'inviter d'autres personnes pour qu'on sorte de ce clivage extrême droite, extrême gauche.
Mais c'est ce que l'on fait, et c'est pour ça qu'on donne régulièrement, on vous donne régulièrement la parole au 32-16, d'ailleurs, comme vous à l'instant, François. Mais alors attendez, François, parce qu'on a un autre étudiant qui nous appelle cette fois-ci de Haute-Corse. Il s'appelle Jules. Bonjour, Jules.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous avez, comme François, est-ce que vous ne voulez pas être coincé entre les deux blocs? Alors dites-moi.
Moi, je pense qu'il faut pas dramatiser la situation. Depuis 2017, on a un gros bloc central, hein, c'est Macron qui l'a appelé comme ça, le centre, avec des partis qui gravitent autour. Donc l'ancienne, on va garder ce nom, la gauche républicaine et la droite républicaine. Et donc les partis un peu plus radicaux, comme vous dites, le RN et LFI, ce sont les nouveaux partis, quoi qu'on en pense, on peut s'en désoler, mais les nouveaux partis de droite et de gauche. Les Français veulent du changement, ils se disent quoi ? LR, PS. Mais en fait, c'est comme Macron. Ils ont voté le budget ensemble. Ils sont d'accord. Donc ça va être soit le RN, soit LFI. Là, on met duel inévitable.
Mais il a raison, Jules, parce que...
Le duel inévitable était entre LR et le PS. Il y a toujours eu deux partis. Ça a toujours été polarisé. Et maintenant, on a LFI.
Vous avez raison, parce que c'est un peu la limite de cette théorie du en même temps. C'est-à-dire que comme on a mis en même temps un peu de gauche, un peu de droite dans un grand bloc central, vous regardez le nouveau remaniement là, il y a un peu LR qui rentre et puis des gens qui viennent de la gauche. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui si on veut une alternance, celle qui est la plus claire et nette, elle est soit au RN, soit à LFI.
Mais c'est
le principe de la démocratie. Il faut toujours une alternance.
Une démocratie avec des partis qui se basent sur une théorie du conflit, c'est un peu embêtant.
Allez-y, Jules.
C'est un peu dangereux.
Oui. Allez-y, Jules.
Quand on a, par exemple, un Bruno Retailleau. Bon, il est dans le gouvernement, tout de suite, le RN, regardez, il est macroniste. Mais dès que Bruno Retailleau va essayer d'apporter un petit peu plus de droite, qu'est-ce qu'on dit ? Il est extrême. Il est extrémiste.
Oui, voilà.
C'est ça le souci.
Ils sont piégés. Retailleau, soit il va être accusé d'être macroniste, soit d'être le péniste.
Non, mais pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Le fait de créer justement cet arc républicain et de créer le macronisme, des débats qui étaient fondés, qui étaient intéressants et qui étaient, j'ai envie de dire, rationnels, ont été complètement annihilés parce que c'est par cette espèce de complaisance politique où je t'arrange, tu m'arranges et il faut qu'on s'entende tous bien, ce qui fait que le débat républicain n'a plus lieu d'être. Maintenant, on a un débat extrémiste.
Aujourd'hui, après 10 ans de macroniste, tu as deux projets de société qui sont radicalement différents. Et comme après 10 ans de pouvoir d'Emmanuel Macron, comme le disait Olivier, tu as pris des gens du PS, de l'UMP, ensuite des LR, et ensuite du Parti Socialiste, tu te dis comment je tourne la page. Le centre étant fait monter, si tu veux, les deux oppositions avec des projets radicaux,
radicalement différentes.
Je voudrais quand même dire une chose. Là, j'ai encore une fois que vous renvoyez le RN, l'impression que vous renvoyer le RN
non,
et
non,
les
non,
finances
non, 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 pas du
et
tout.
Le RN s'est très très largement déradicalisé et on oublie toujours Éric Ciotti et l'UDR. Pardon, mais moi qui suis un électeur de droite,
allié du RN,
évidemment allié. Mais ils ont leur propre autonomie. Ils apportent beaucoup de choses à l'Assemblée nationale. La commission sur l'audiovisuel public par Charles-Henri Alloncle, c'est du très bon boulot.
Je pense que Ciotti est en train de bouffer les LR définitivement.
Et donc je vais vous dire, mais Ciotti c'est les LR, pardon.
S'il gagne,
c'est l'ancien président. Et je pense que c'est beaucoup plus subtil que ça. Les électeurs de droite, libéraux comme moi, peuvent se retrouver dans l'UDR et on peut tout à fait imaginer.
Oui, mais enfin, il y a beaucoup de gens de droite qui refusent encore d'aller voter UDR et RN.
Mais oui, mais ce que je veux vous dire, c'est que.
Ah, parce que quand t'es droite, pardon.
C'est plus le RN tout seul, radical, etc.
Et tu rigoles, quoi.
Il y a une alliance, il y a du travail à l'Assemblée.
Le costume et la cravate ne font pas tout.
Mais là,
pour revenir à l'affaire dont on parlait tout à l'heure, on a quelqu'un de LFI, donc qui est un attaché parlementaire, qui est dans la jeune garde, et on le montre du doigt pour qu'il démissionne, etc. Bon, on a BFM qui met en avant le cursus de Vincent Claudin, qui est attaché parlementaire d'une députée RN, qui tient des propos hyper raciste comme au bon temps du père Le Pen. Donc, ça n'a pas changé.
Mais il a été démissionné
immédiatement. Il a été viré, mais on nous dit
non, pareil,
on l'ignorait, donc, etc. Non, mais c'est LFI pareil,
continue
on l'ignorait, etc. On l'ignorait, etc.
La jeune garde qui a tué.
Ouais. Moi, ce que je dis, c'est que la différence qu'il y a et qui explique qu'on ait ces deux blocs prépondérants, c'est le point commun qu'il y a entre le RN et LFI. C'est que Mélenchon d'un côté et la famille Le Pen de l'autre tiennent le parti du domaine de fer.
Oui.
Et tu as donc une seule tête de chaque côté. Alors que tu prends la droite, le PS, tu as autant de têtes presque qu'il y en a des rangs.
Merci à Jules et à François, les deux étudiants là du côté de l'Isère et la Haute-Corse, d'avoir été avec nous. Dans un instant, ensuite des GG en direct du Salon de l'Agriculture, en direct du stand des Hauts-de-France. On aura le « on s'en fout, on s'en fout pas » avec une fuite des données médicales, le remaniement ministériel, le remaniement gouvernemental avec les derniers fidèles d'Emmanuel Macron qui rentrent au gouvernement. Et puis on aura une éleveuse de chiens.
J'ai vu le chien passer.
Avec nous, belle bête.
Magnifique.
Allez, restez avec les grandes gueules en direct sur RMC, la radio, RMC Story, la télé, surtout en direct de la région des Hauts-de-France, ici au Salon de l'Agriculture.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Nous sommes toujours ici à la région des Hauts-de-France, au stand des Hauts-de-France, au Salon de l'Agriculture, et nous y sommes en direct jusqu'à midi. Nous sommes avec Jérôme Marty, avec Antoine Dierce, avec Laura Varton-Martinez, la sophrologue, le consultant juridique, et puis le médecin généraliste. Il est 10h moins le quart, on accueille Anaïs Inès Sainz, c'est l'heure du OSEF.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
C'est le on s'en fout pas. Avant de te donner la parole, Anaïs, il y a bien une chose dont on ne se fout pas, ce sont les vacances. Les vacances bel en bras, bien évidemment, dans l'un des 45 clubs et hôtels. On joue encore aujourd'hui, vous gagnez le séjour, tout compris premium. Vous choisirez la mer, la montagne ou la campagne. Il suffit juste d'envoyer vacances par SMS au 732-16. Vacances par SMS au 732-16. Si vous ne connaissez pas la Corse, le pays de l'ami Laurent Varton-Martinez, et eh bien, vous pourrez aller du côté de la montagne, par exemple, aux Deux Alpes, à la campagne, dans le Verdon. Ce ne sont que quelques exemples. Vous en aurez 45 de destinations. Faites-vous plaisir. Vacances par SMS au 732-16. Anaïs, bonjour.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Une fuite géante de données médicales inquiète en France. Elle inquiète parce qu'il s'agit d'informations très sensibles sur l'état de santé de plusieurs millions de Français. On parle quand même, Jérôme Marty, de 11 à 15 millions de patients impactés. Est-ce que tu t'en fous ou pas, docteur Marty ?
T'as répondu pour moi, donc non, on s'en fout pas, évidemment.
Antoine ?
Non plus, je ne m'en fous pas.
Laura ?
Et non plus.
La société Hacker, c'est CGDIM qui fournit des logiciels médicaux à 25 000 cabinets et centres de santé. On pourrait savoir à la lecture de ces fichiers si telle ou telle personne est porteuse du VIH, par exemple, ou même leur orientation sexuelle, d'après les informations de France Info, des fichiers hackés qui pourraient concerner même des personnalités politiques de premier plan. Docteur Marty.
Ben, on s'en fout pas. Je rappelle qu'un des motifs de notre mouvement de grève, c'était celui-là. C'est-à-dire que on entendait protéger les données de nos patients, puisque vous savez qu'on voulait nous obliger à renseigner le dossier médical partagé, ce dossier où l'on met toutes les informations du patient. Et on avait dit, on ne doit pas et on ne veut pas être complice d'une possible évasion des données des patients tant qu'on n'a pas de garantie d'inviolabilité. Et ça, ça vaut aussi pour les, évidemment pour les dossiers médicaux que l'on a personnellement, mais tout ce qui est sur le cloud se doit d'être protégé beaucoup plus. Et je rappelle que le Health Data Hub, où on a toutes les données des patients français, il est hébergé chez Microsoft. Ce qui veut dire que l'Amérique, les USA, par le Patriot Act, peuvent avoir accès aux données de santé des patients français. Et on l'a dénoncé bien avant la Covid. On l'avait dénoncé. Logiquement, ça devrait être retiré à Microsoft. Le président Macron s'y était engagé. C'est pas encore le cas.
Mais pour les confier à qui? Est-ce qu'on a les moyens en France?
Une banque française, mais le problème, un serveur français, mais on n'a pas de serveur assez puissant aujourd'hui en France. C'est là qu'on est très en retard. Mais au-delà de ça, on voit bien que la porosité des données des patients est entretenue et c'est absolument insupportable.
J'ai récupéré par exemple les analyses d'urine d'Alain Marchal.
Tout est normal, mais c'est bon.
Faux dossier médical. J'ai bien l'intention de tout balancer tout à l'heure sur les réseaux sociaux.
Laura.
Moi, je trouve que c'est effrayant. Je me demande, on voit que l'hôpital part en cacahuète de tous les côtés, que tous nos services partent en cacahuète de tous les côtés. Je trouve que ça touche encore un sujet régalien. C'est notre sécurité, c'est notre intimité. C'est parfois, il y a des gens qui, ça peut impacter leur travail, ça peut impacter leur famille. Moi, ça me terrorise.
Non, bien sûr.
Ça me terrorise à l'idée qu'il n'y a rien de plus personnel que notre santé. Dans notre santé, à notre médecin, on lui dit tout. On lui dit les moindres bobos jusqu'aux bobos les plus.
Non, mais par exemple, là, on nous annonce que peut-être qu'il y a des personnalités à qui on a piqué les données de santé. Ça peut être un moyen de chantage. Est-ce qu'on va révéler, tu vois, des politiques, des stars?
Ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où, je veux dire, moi, il n'y a pas une seule chose que mon médecin traitant ne sait pas.
Ah bon?
Ah non, je lui dis tout. Ben, c'est mon médecin traitant qui m'a envoyé voir. Ben, c'est lui qui m'a envoyé voir un psy, c'est lui qui discutait avec
moi. Oui, bien sûr.
Mais la totalité des hôpitaux français privés ou publics sont victimes.
Régulièrement,
ouais,
tout le temps.
Où on leur prend les données contre ce qu'on appelle des ransoms, c'est-à-dire des rançons qu'on leur demande pour récupérer.
Mais elles vont où ces données? Elles sont vendues à qui après? Oui, c'est ça le problème.
C'est les assureurs qui payent.
Les assureurs.
Si tu veux les rançons qui sont demandées, les assureurs préfèrent payer ça plutôt que payer beaucoup plus cher si les données s'évadent.
On enchaîne, Anaïs.
De nouveaux ministres dans le gouvernement, le cornu, les GG, c'est un peu le remaniement des fidèles, oui, des fidèles d'Emmanuel Macron. Quatre nouveaux membres font leur entrée, des proches du président. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Jérôme?
Tu peux t'en foutre, hein, Jérôme,
je m'en fous complètement.
Ah bon?
Laura?
Mais je m'en fous, et c'est
Antoine. Allez, go, Antoine.
Alors, attendez, mais j'explique qui rentre au gouvernement, quand même, le retour de Sabrina Agresti-Roubache, très proche du couple Macron, qui revient deux ans après avoir
quitté le gouvernement. Sabrina Roubache, désormais.
Ah bon, d'accord.
Et Agressi a disparu.
Ah bon, pourquoi?
On peut pas te dire,
on peut pas. On protège. C'est dans la fuite des données.
Sabrina Roubache arrive donc à l'enseignement supérieur. Maud Bréjon est promue à l'énergie, mais conserve quand même son poste de porte-parole. Du côté du ministère de la Culture, c'est l'ancienne présidente du château de Versailles et ex-conseillère d'Emmanuel Macron, Catherine Pégard, qui a pris la succession de Rachida Dati.
Enfin,
l'actuel député LR des Hauts-de-Seine, Jean-Didier Berger, est nommé ministre auprès du ministre de l'Intérieur.
Antoine.
Moi, j'ai regardé avec délectation les nominations tombées hier soir, se dire qui va oser monter dans le radeau de la Méduse. Eh bien, il y en a qui vont encore. Il y en a qui veulent assister au crépuscule du macronisme. Au premier rang, ils se disent, ça va être un beau spectacle. Et alors, que Madame Roubache y aille, c'est une amie, elle a déjà été ministre, etc. Mais moi, ce qui me chagrine le plus, c'est Jean-Didier Berger. Jean-Didier Berger.
Qui était un jeune député LR.
Député LR, dont j'avais pour lequel j'avais plutôt de l'estime, etc. Pourquoi il s'embarque dans cette galère maintenant?
Parce qu'être ministre, ça n'arrive pas tous les jours. On lui propose.
Le bonhomme va réussir à être ministre au crépuscule sur un malentendu, arriver discrètement sur un remaniement. Oh les gars, soyez cohérents, on arrête.
Merci ma chère Anaïs. À tes côtés va arriver maintenant Audrey
Sarna.
Elle est éleveuse de chiens Schnauzer. Parce que, au Salon de l'Agriculture.
Le chien est magnifique.
On a aussi un pavillon pour les animaux.
Vous savez, les GG, quand même, qu'au Salon, les chats et les chiens sont les animaux les plus représentés, même quand il y a les bovins sur place. Il y a beaucoup, beaucoup de chiens et de chats.
Bonjour, madame.
Bonjour.
Présentez-nous votre chien tout noir et tout poilu.
Alors, Opal. Tout poilu, c'est Opal. Ouais, oui, c'est ça. Elle vient. alors c'est un schnauzer géant.
C'est une
noire. Il faut savoir que donc, le schnauzer existe en plusieurs tailles, petit, moyen, grand, et plusieurs couleurs. Donc blanc, noir et argent, poivre et sel et noir. Donc Opal est une noire toute noire, avec un poil rêche. Je peux vous en parler pendant des heures. Alors, le géant est un chien au départ qui travaillait dans les écuries, à la recherche des rats et des mulots. C'est pour ça qu'ils ont des poils longs et une grosse barbe. Ça leur permettait des fois de se faire attraper par les rats, mais de se retourner et crac.
Ah oui, d'accord.
Donc la barbe a son intérêt dans la race. C'est un chien qu'on épile.
Ah bon?
Oui, qui est trimé avec un poil sec. Donc trimé, un petit peu tondu.
Comme Bruno Poncet alors.
Comme le
Bruno Poncet. Vous connaissez le Bruno Poncet?
Il va prendre tous les jours. Vous pouvez tous les jours épiler un petit peu.
Oui. Ne vous laissez pas distraire.
Non, je ne me laisse pas distraire. Et c'est un chien, alors le géant en tout cas au départ un chien de défense, mais qui avec une bonne main, et on dit toujours c'est comme un enfant, on les éduque, on les dresse pas. Et après, c'est que du bonheur avec un chien de famille, un chien qu'on peut emmener partout et qui n'a peur.
Opal est très calme, hein, parce que moi, j'ai vu des schnauzers, notamment des schnauzers nains, qui faisaient beaucoup de bruit, qui aboyaient beaucoup, etc. Et donc, j'étais resté sur cette vision de la race.
Et ben alors.
Et parce qu'ils sont comme toi, ils ont été mal éduqués.
Ah, ben ça, c'est peut-être. Peut-être.
Ma pauvre maman, qu'est-ce qu'elle va dire, là?
Est-ce que vous pouvez le faire marcher
un peu
devant le plateau, là, où, effectivement, qu'on voit l'ami schnauzer.
Je sais pas où va la télé. Reste.
L'ami Opal. Bien dressé.
Oui.
Reste.
Assis.
Assis.
Voilà, t'as vu comme il mobilise?
Ah ouais,
je dis en même temps. Pas bougé.
Alors, est-ce que c'est un chien d'appartement ou pas? Non, mais je veux dire, parce que les gens aujourd'hui ont les animaux dans les appartements.
À deux pièces.
Alors, un chien, moi je vais, alors après, je serai pas forcément copine avec tout le monde. Un chien dans un appartement sera très heureux s'il promène, s'il sort, s'il est avec son maître et s'il a l'occasion de se défouler. Ne laissez pas que ce soit un petit ou un grand enfermé dans un appartement. Le chien, il va devenir
fou, bien sûr.
Enragé, enfin, énervé, et après, c'est plus vivable.
Ouais.
Ça doit être un compagnon de tous les jours. Ça doit pas être un chien qu'on laisse dans un coin.
Et ça mange beaucoup ou pas, ça?
Pas mal quand même.
Ah oui, c'est... Non, mais
elle aime bien les petits compléments.
Et avec les enfants, quel est le comportement avec les enfants?
Génialissime. Vous nous la prenez en laisse, vous, elle va peut-être un peu tirer. Vous la mettez avec mon petit garçon qui a 6 ans, elle est à côté et elle ne tire plus.
Mais vous, c'est ce que vous dites, c'est un chien, ça s'éduque.
Ça s'éduque, c'est
impératif. Donc ce qui veut dire, les premiers mois, il faut vraiment lui apprendre
tout. Et alors
les pauses, le respect.
Oui.
Voilà.
Et on dit, les chiens de grande taille, c'est jusqu'à 2 ans. Ça devient adulte au bout de 2 ans dans sa tête et tout est posé.
Bah, c'est un peu comme Antoine Diers.
Tu sais, toi qui as un gros chien aussi. Donc,
non, je vais Terre-Neuve, oui.
Ah oui,
bah, c'est pareil.
Bah oui.
Ça, tout, on apprend tout et à 2 ans, on a l'impression que tout se met en place dans leur tête. C'est et ça. Là, ils deviennent éduqués, sociables et gentils.
Et si jamais on veut acheter un schnauzer, il faut faire attention, il faut aller dans un élevage, il faut en parler.
Dans un bon élevage, si vous voulez acheter un schnauzer, la meilleure chose, c'est d'aller sur le site du Club du Schnauzer français. Vous avez toutes les coordonnées, toutes les portées qui sont référencées, recommandées, etc. Et de là, pareil, vous avez les contacts de tous les responsables du club, notamment Madame Sels, notre présidente, qui sera en capacité de vous dire, vous pouvez aller là, je sais qu'il y a une portée à tel endroit. Voilà.
Ça laisse plein de poils, non, quand même?
Alors, elle, pas du tout, parce qu'elle est épilée.
Non, parce que tu l'épiles.
Olivier, t'es intéressé.
Merci Audrey Sarna, merci. Et le salut à Opal, votre schnauzer, que vous avez apporté aujourd'hui, amené au GG, aux grandes gueules.
Bravo.
Dans un instant, les grandes gueules, toujours en direct de la région des Hauts-de-France, sachant qu'à la fin des GG, on aura le défi. Laura Varton-Martinez va ouvrir des coquilles Saint-Jacques. Hier, on a pelé les pommes
sans
de terre.
Blesser.
Elle va ouvrir des coquilles Saint-Jacques tout à l'heure. Allez, restez avec les GG. Dans un instant, on va encore faire appel à vous au 32-16.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.